Donc, ce matin, comme je vous le disais,
muri kano gatondo nkuko namye ndabivuga,
nous allons parler du merveilleux nom de Jésus.
Tugiye kuganira ku izina ryiza cyane.
Et en fait, quand je cherchais le titre, parce que c'était vraiment l'autorité du nom de Jésus, ce qu'il y a à propos du nom de Jésus. C'était le merveilleux nom de Jésus. Merveilleux. Et directement, ça m'a fait penser à deux passages.
Enfin,
pas directement, ça m'y a fait penser un peu plus tard d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. À deux passages de l'Ancien Testament que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Et dans lequel je me posais des questions. Tiens, pourquoi est-ce que les choses sont arrivées comme ça? Et c'est seulement ce matin que j'ai eu la réponse. Vous savez, parfois on se pose des questions, on n'a pas vraiment de réponse. Qui peut dire, je sais tout, je connais tout, je comprends tout. J'ai la lumière sur tout. Personne ne peut dire ça, aucun homme ne peut dire ça. Donc dans Genèse chapitre 32, verset 29, il y a ce passage où Jacob va combattre avec le Seigneur Jésus, puisque ici il s'agit de l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel c'est un des termes de l'Ancien Testament par lequel on parle de Jésus, c'est lui-même. Et au verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là.
Ngo aramubarira ati nchuti yako mukundwa 29 ngo Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira aramubaza atumbariza iki zina ryanje amuhezagiriraho hano.
Et pendant longtemps,
igiye kinini cyane,
je ne me suis pas posé la question toutes les 5 minutes, bien sûr. Mais pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi Jésus ne donne pas son nom. Il aurait pu donner son nom. Si moi je pose à Essoum la question, quel est ton nom? Qu'est-ce que tu me réponds? Et moi je m'appelle Isabelle. En principe, on n'a pas de problème pour donner notre nom. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Jésus ne donne pas son nom? Et là, ce n'est pas arrivé une fois, mais c'est arrivé deux fois dans l'Ancien Testament. La deuxième fois, on peut le voir dans le livre des Juges. C'est lorsque le Seigneur vient encore une fois auprès d'un homme pour lui annoncer la naissance miraculeuse de son fils, puisque sa femme est stérile. Et à la fin, Manoach, c'est son nom,
Manoach,
donc le père de Samson, parce que sa femme n'est pas encore enceinte à cette époque, mais c'est quand même lui qui sera le père de Samson. Au verset 17, va lui dire, et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira?
Ngo Manoa amubaza abaza umumarayika w'Uhoraho ati witwa nde kugira ngo ibyo wavuze n'ibyashika tuze tugushemagize.
Voyez, cet homme avait une bonne intention.
Murabona uyu muntu yafise intumbero nziza.
Donne-nous ton nom.
Tubwire izina ryawe.
Pour que quand cette parole va se réaliser,
kugira ngo iryo jambo niyo ryashika,
nous puissions te donner la gloire.
Tuze tuguhe.
Regardez ce que le Seigneur va répondre. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Jésus ne pouvait pas donner son nom encore. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accompli son œuvre. Et parce que aussi, les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas recevoir encore, le transfert du nom de Jésus. La puissance, l'autorité, le salut, la guérison, la délivrance, les exaucements qui se trouvent dans le nom de Jésus. C'est pour ça que son nom n'a pas été révélé. Dans l'Ancien Testament, on voit l'Éternel. Yahvé ou Jéhovah, c'est comme vous voulez. Mais quand Jésus vient sur la terre, il vient pour établir quelque chose de nouveau qui s'appelle la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance en son sang. Il vient pour dévoiler, pour faire connaître le Père. Parce que je pense que vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du Père. On parle d'un Dieu qui fait peur à tout le monde, dont les exigences sont extrêmement élevées. Un Dieu saint. Et d'ailleurs, il est toujours ce même Dieu, il n'a pas changé. Amen. Les hommes ne pouvaient pas s'approcher de lui. Quand Moïse monte sur le mont Sinaï, il monte lui seul. Le peuple reste en bas, il reste au loin parce qu'il a peur. Il a peur du tonnerre, des grondements. Et il a peur des éclairs qui sortent du sommet de cette montagne. Mais Jésus est venu pour faire connaître aux hommes la possibilité d'avoir un Père. Je dis la possibilité parce que ça dépend de chacun de nous, les hommes. Vous savez, nous avons eu un Père terrestre que nous n'avons pas choisi. Certains ici, vous avez eu de bons pères. Moi, j'ai eu un bon père. Certains ont eu de bons pères comme moi et même peut-être de meilleurs encore. Et d'autres, vous n'avez pas eu de bons pères. Ou alors, vous n'avez même jamais connu votre père. On n'a pas choisi notre Père terrestre. Mais nous avons la possibilité de choisir notre Père céleste. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père. Et quand je dis tu as la possibilité de le choisir, ça veut dire que tu as la possibilité de devenir son enfant. Jean chapitre 1 verset 12, et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais Jean chapitre 1 verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batavyawe n'amaraso canke n'ukwifuza kw'imibiri canke kwifuza kw'umugabo ariko bavyawe n'Imana.
Donc, comme je vous le disais, nous n'avons pas choisi notre Père terrestre, mais nous pouvons choisir Dieu comme notre Père céleste. Amen. Nous pouvons le choisir. Demande à ton voisin, est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que tu l'as choisi? S'il te dit oui, tu dis gloire à Dieu, moi aussi. S'il te dit non, eh bien, ou s'il te dit rien, tu dis on va s'en occuper à la fin du culte. Parce que tu ne peux pas rester sans Père. Amen. Donc, le nom de Jésus n'était pas révélé, n'était pas dévoilé dans l'Ancien Testament parce qu'il n'était pas venu accomplir son œuvre. Il y a certaines paroles prophétiques qui annoncent sa venue, qui parle de son œuvre, notamment comme dans Ésaïe chapitre 53, certains détails de sa vie, le lieu de sa naissance, comme dans le livre de Michée, le fait qu'il allait naître d'une vierge dans Ésaïe encore, qu'il serait livré pour 30 pièces d'argent dans Zacharie, qu'il allait être transpercé dans le psaume 22, et que ses vêtements seraient partagés,
tirés
au sort. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a certaines paroles prophétiques concernant Jésus et sa venue, mais son œuvre n'était pas révélée parce que c'était ce que l'on appelle un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché pour un temps et que Dieu révèle au moment opportun où il veut manifester ces choses. Et cela faisait partie d'un mystère. Parce que si le diable avait connu ces choses, cela nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, le nom de Jésus, premièrement, le nom de Jésus sauve. Amen. Le nom de Jésus sauve. Amen. On le voit dans l'Ancien Testament. À certains niveaux, bien sûr. Puisque le salut a été manifesté après la résurrection de Jésus. Invoque-moi. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Lisons ensemble Actes chapitre 4, versets 11 et 12. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse au Sanhédrin, au chef du peuple. Je ne suis pas en train de lire. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse au Sanhédrin, au chef du peuple, à propos de la foi qu'il a dans le Seigneur. Et il va dire, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
C'est
quelque chose qui peut vous paraître être une évidence, mais qu'il ne l'est pas pour tout le monde. Et loin de là, je dis bien loin de là, ne serait-ce que dans les églises d'une manière générale, il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent prier et qui écoutent la parole de Dieu, qui essayent de se comporter du mieux qu'ils peuvent et qui pourtant ne sont pas encore sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Dans Marc chapitre 16 et le verset 16, parce que je sais qu'il est important de toujours dire ces choses régulièrement, en tout cas, il est dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous savez, quand on s'adresse aux gens, et si par exemple on va dans la rue, la première personne qui passe, tu lui dis: est-ce que tu crois en Dieu? Ici au Burundi, les gens croient en Dieu. La plupart des gens croient en Dieu. Il va te dire oui. Et si tu lui poses cette question, et tu lui dis: est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? La plupart d'entre eux vont répondre oui, pas tout le monde, mais la plupart. Mais ce n'est pas suffisant. Il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Là, on se dit, ah bon, est-ce que c'est le baptême d'eau? Et je vais vous dire non. Vous vous rappelez dans la fin de l'évangile de Luc, lorsque Jésus est crucifié, on le crucifie, on le met au centre, et à sa gauche et à sa droite, il y a deux brigands. Il y en a un qui insulte Jésus, et l'autre qui lui dit la chose suivante, notre châtiment est légitime parce que nous méritons ce que nous avons fait.
Et
il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ta gloire. Et Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, est-ce que cet homme qui était sur la croix a pu descendre de la croix, aller se faire baptiser? Certainement pas. Et vous savez, la parole de Dieu est censée, elle est vraie, elle est juste et elle ne se contredit pas. Donc que veut dire ce verset? Celui qui croira et qui sera baptisé. Quand on étudie la Bible, on voit qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau dont on vient de parler en quelques instants, qui est le symbole de notre nouvelle naissance. Il y a le baptême du Saint-Esprit accompagné par le parler en langue. Et il y a aussi un autre baptême qui est le baptême de la nouvelle naissance. Et on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 13 qui dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13.
Kumurongo wa 13 ngo kuko muri mwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe naho boba abayuda canka abagiriki naho boba abagurano canka abidegemvya kandi twese twanyweshejwe mwe mumwe.
Amen.
Amen.
Donc ici il est dit nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est l'Église. Amen. Le corps, c'est l'Église. Et l'Église, c'est le rassemblement des personnes qui sont nées de nouveau. C'est ça la définition de l'Église. Donc, pour être une part de l'Église, nous devons avoir été baptisés, immergés dans l'Esprit de Dieu afin de pouvoir naître de nouveau. Ça, c'est la signification du baptême de la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, on va se poser la question, croire, d'accord, naître de nouveau, d'accord, mais comment arriver à cela et où intervient le nom de Jésus dans le salut? On va lire ensemble dans Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Romains chapitre 10 verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture.
Nuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye ikamukura mu bapfuye, uzokizwa. kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza.
Le seul nom,
izina ryonyine,
le seul,
izina ryonyine
qui a été donné aux hommes pour le salut, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et vendredi, je parlais avec une dame qui commençait à vouloir me parler de Dieu et des choses de Dieu. Et elle me montrait une petite brochure dans laquelle il était dit comment... comment faire des adultes mûrs et responsables, quelque chose dans ce genre. Et je lui disais, le concept est bon. Amen. On a besoin que les hommes deviennent des adultes mûrs et responsables.
Dit,
le concept est bon, mais ce concept n'est pas suffisant. Parce que tu peux produire un adulte mûr et responsable qui va en enfer, qui n'est pas sauvé. Et c'est là qu'on a commencé, bien sûr, à parler à propos de Jésus. Et je lui disais, Jésus est le seul qui puisse te sauver. Et cette personne pensait qu'elle pourrait peut-être être sauvée, mais elle n'était pas bien sûre. Et je lui dis, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Et le deuxième facteur, c'est que tu crois dans son sacrifice, que tu comprennes que Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a pris ta place à la croix, il est devenu péché pour que tes péchés te soient pardonnés. Parce que ce qui envoie l'homme en enfer, c'est seulement une chose, c'est le péché. Le péché envoie l'homme en enfer. Parce que dans le ciel, tout est saint, tout est pur et tout est parfait et rien de souillé ne pourra jamais entrer dans le ciel. Donc la purification des péchés, un seul a pu l'accomplir et c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est dit. On va relire ce texte de Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés.
Ngo kandi nta wundi agakiza kabonegwamo kuko atarindi zina munsi ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo.
Vous savez, c'est la première chose. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la deuxième ni dans la troisième chose si on n'est pas au préalable rentré dans la première chose. Et la première chose, c'est le salut. Parce que tous les hommes ont besoin d'être sauvés sans aucune exception. Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par le nom de Jésus, il y a une deuxième étape, une deuxième chose. À cause du nom de Jésus, nous avons accès au baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Jean, chapitre 14, versets 16 à 19, et ensuite nous lirons le verset 26. En dehors du nom de Jésus, sans le nom de Jésus, le Saint-Esprit n'aurait pas été donné. Lisons ensemble verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et le verset 23 nous dit la chose suivante, non, c'est pas le verset 23, excusez-moi, le verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père, écoutez bien, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Lis le verset 26.
Ngo ari kumwitsa ari we mwemwe yera uwo data azorungika mu izina ryanje niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Ce que j'aimerais ce matin, c'est que vous puissiez avoir, comment dirais-je, le tableau. Le tableau complet, même si on ne va pas développer longuement chacun des aspects. Le tableau complet à propos du nom de Jésus. D'abord, le nom de Jésus amène le salut. Dans le nom de Jésus, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas venu par hasard. Amen. Il est venu dans le nom de Jésus. Et sa présence, bien sûr, réside en nous. Ce Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jusqu'à présent, j'étais avec vous. Mais maintenant, je serai en vous. Et bien sûr, c'est par le Saint-Esprit que Jésus vit dans nos cœurs. Et c'est aussi dans le nom de Jésus que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Lisons ensemble Marc chapitre 16 verset 17. L'Église a besoin de comprendre la puissance et tout ce qui se trouve dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom magique. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas invoquer le nom du Seigneur en vain. Elle nous dit aussi que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Marc chapitre 16 verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues.
Ngo kandi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimi nsha.
Voyez, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit et que nous parlons en langue, nous parlons en langue dans le nom de Jésus. Et on a besoin de comprendre l'importance du parler en langue. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et il dit des mystères sur sa vie. Et c'est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans ton propre nom. Ce n'est pas dans ta propre autorité. Vous savez, parfois, il y a des personnes, et récemment, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit et qui avait parlé en langue. Et au bout de quelques temps, il commençait un petit peu à douter. Le diable était venu avec des mensonges. Il a commencé à raisonner, se disant peut-être que c'est moi qui invente, peut-être que c'est moi qui fabrique. Et à cause de cela, il ne parlait plus vraiment en langue. Donc je l'ai vraiment encouragé. J'ai prié pour lui et je lui ai dit, tu sais, quand le Seigneur te fait un don, il ne s'en repent pas. Je ne vais pas prier en langue pour que tu sois à nouveau baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais je vais prier pour toi pour que tu puisses libérer ce langage céleste. Et au bout de, je ne sais pas, 3 secondes et demie, il s'est mis à nouveau à parler en langue. Amen. Et on doit comprendre que parler en langue, c'est important. Parce que quand nous le faisons dans le nom de Jésus. Et si le diable vient te dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Réponds-lui la chose suivante. Vous savez, parfois, le diable, il ne faut pas avoir peur de lui dire des choses. La Bible nous dit que nous ne devons en aucun cas insulter les gloires. Et que, d'ailleurs, l'archange Michel ou Michael, c'est comme vous préférez, a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Mais il ne s'est pas permis de lui dire n'importe quoi, n'importe comment. Et si le diable vient te dire des choses, oui, tu dis les mêmes mots que le frère tel ou la sœur telle, tu es en train d'inventer cela. Je pense que parfois quand on parle, on dit les mêmes mots. Surtout si on parle la même langue. Est-ce que tu dis les mêmes mots que moi quand tu parles en français?
Oui.
Ok, donc c'est que tu parles français. Amen. Amen. Et même d'une langue sur l'autre. Il y a des mots qui se ressemblent. Vous savez que haricot, ça veut dire quelque chose en français.
Haricot.
Non. Oui. Mais haricot, ça veut dire aussi quelque chose en kirundi et ce n'est pas la même signification. Et pourtant, c'est un mot qui se ressemble. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des mots comme ça qui se ressemblent d'une langue sur l'autre et pourtant, ils ne veulent pas dire la même chose. Et ça ne veut pas dire que ce sont des mensonges. Pardon, je vais trop vite.
Les haricots, c'est pas la même chose.
Mais je sais que c'est pas la même chose, mais c'est un mot qui existe dans une langue comme dans l'autre. Je sais que haricot en kirundi, ibiharage, c'est ça? Non, j'ai pas bien.
Ibiharage.
Ibiharage. J'ai bien prononcé cette fois. Mais haricot, ça veut dire mais, non? M-A-I-S.
Haricot.
Alors? Elle ne comprend rien. Seigneur, bénis-la. On ne dit jamais haricorero. Ça n'existe pas? Hein? Ok. Donc, haricot. 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 Haricot.
Haricot.
Ça veut dire quelque chose en kirundi.
Haricot, c'est quoi en kirundi?
Amen.
Amen.
Vous comprenez? Donc, quand vous parlez en langue, ne questionnez pas les mots que vous dites. Peut-être que tu dis un truc que ton frère dit aussi. Peut-être que ça veut dire la même chose. Peut-être que ça veut dire autre chose. Peut-être que c'est la même langue. Et peut-être que ce n'est pas la même langue.
Amen.
Mais peu importe. Vous savez, le problème des hommes et des femmes d'ailleurs, c'est qu'on raisonne. Mais si le diable vient te dire je ne sais quoi, dis-lui, écoute, moi, je parle en langue au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. J'écoute. Je reçois. J'ai écouté ce verset, bien sûr. Je reçois. J'obéis. Et c'est tout. Et quand vous en arrêtez là, eh bien, vous allez voir que vous n'aurez plus jamais de blocage, jamais de questions ou jamais de problèmes. Parce que nous parlons en langue dans le nom de Jésus. Et le but de parler en langue. Et c'est pour ça que le diable ne supporte pas, une des raisons,
Vous
savez, la première raison pour laquelle, ou la deuxième, peu importe, une raison pour laquelle il ne supporte pas qu'on parle en langue, c'est qu'il ne comprend pas. Vous avez déjà été dans un endroit, dans une pièce ou dans une voiture où des gens parlent une langue que vous ne comprenez pas. À qui c'est arrivé?
Et
à moi, ça m'arrive souvent d'ailleurs. C'est un peu frustrant, n'est-ce pas? Mais le diable aussi, ça l'énerve. Amen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand tu parles en langue dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit, il te remplit de puissance. Et c'est là où tu peux être un témoin efficace. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est dans Actes chapitre 1, verset
8.
Autre chose dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est le nom qui guérit. Le nom qui guérit. Et le nom qui délivre. Amen. Il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Et quand on comprend vraiment, vous savez, le salut, c'est quelque chose de facile à recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a accompli cette œuvre pour que nous soyons sauvés. Le salut est quelque chose d'extrêmement facile à recevoir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extrêmement facile à recevoir. Et je continue. La guérison divine est quelque chose de tout aussi facile à recevoir. C'est tout aussi facile. Parce que le salut est dans le nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit est dans le nom de Jésus. La guérison est exactement de la même façon. Exactement. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Chaque personne qui se trouve ici dans cet endroit peut être guérie de n'importe quelle maladie à n'importe quel moment, tout de suite, dans 5 minutes, demain, le mois prochain ou jamais. Ça
ne
dépend pas du Seigneur, ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de ce que tu crois. Pour être sauvé, quelle démarche as-tu faire? Dieu a dû croire de ton cœur et confesser de ta bouche, et tu as été sauvé. Il y en a qui ont senti quelque chose, d'autres qui n'ont pas vraiment senti grand chose, mais qui ont fait cette démarche avec sincérité. Et pour la guérison divine, c'est exactement la même chose. Tu crois? Tu confesses, tu es guéri. Parfois les symptômes sont encore là, 5 minutes ou un peu plus, mais peu importe. Ce qui est important, c'est le nom de Jésus. Et parfois les symptômes partent tout de suite, parfois les symptômes partent instantanément. Amen. N'importe quel chrétien peut être guéri de n'importe quelle chose, n'importe quand. Et tout dépend de ta foi et de ton désir et de ta détermination. Moi, je crois. Je refuse la maladie. Je refuse les symptômes. Je suis en bonne santé. Je vais très bien. Dans le nom de Jésus. Et c'est pas... Vous savez, la guérison, on ne peut pas, personne ne peut la mériter et personne ne peut la produire. Bénin lui-même le dit. Je suis incapable de même guérir une mouche. Celui qui guérit C'est le Seigneur. Amen. Mais nous recevons la guérison. Je vous écoute. Amen. Dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Lisons ensemble dans Actes.
Actes.
D'abord, on va commencer dans Marc. Marc 16, puisqu'on est là dedans en ce moment, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Ngo kandi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera ni bazosenda amadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimisha bazofata inzoka nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi bazorambika ibiganza kubagwayi bakire.
Amen. Je veux un cobaye. Quelqu'un ici? Voilà. Hein, viens là. Merci. Parce que, vous savez, je sens vraiment d'insister là-dessus. On fait de la guérison divine. Viens là pour qu'on te voit. On fait de la guérison divine quelque chose de... C'est quelque chose de très... De très, 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 très mystérieux. Peut-être que ça peut arriver. Peut-être que ça ne va pas arriver. Alors, parfois, il y en a qui se disent, oh, je dois imposer les mains vraiment. Et plus je fais ouh, plus il y a de puissance. Mais ça, c'est charnel. Amen. C'est humain. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu essayes toi-même de mettre quelque chose dedans. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est imposer les mains? C'est au nom de Jésus, sois guéri. Et je vais vous dire quoi? Ça suffit. Ça suffit. Moi, j'ai vu. Merci. Merci beaucoup, Tony. J'ai vu les plus grandes guérisons d'une façon les plus simples. Les plus simples. Je me rappelle un jour, on était à l'hôpital. Il y avait un homme qui était dans un fauteuil roulant. Vous savez, quand c'est quelqu'un qui a mal à la tête ou au dos, tu te dis, oh, ok, c'est facile, il n'y a pas de problème. Mais ça encore, c'est humain aussi. Qu'y a-t-il de difficile pour le Seigneur? Rien. Quand tu regardes dehors, tu vois qu'il est capable de faire tenir le soleil toujours à la bonne place. Donc rien n'est difficile pour lui. Il y avait cet homme sur un fauteuil roulant. Il me dit, prie pour moi. Prie pour moi. Je veux être guéri. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai la tuberculose dans la colonne vertébrale. Ça fait deux ans, ça fait un an que je ne marche pas. Ça fait deux ans que je suis malade. Alors, c'était il y a longtemps vraiment. Et ça m'a vraiment impressionné. Mais je me suis dit, ok, s'il me demande de prier, je ne vais pas dire non. Et si la Bible dit qu'il faut prier, alors je vais le faire. Alors, je prie pour lui, je lui impose les mains au nom de Jésus et je rentre à la maison. Et il était toujours dans son fauteuil roulant. Et deux ou trois jours après, on revient. Et là, je le vois debout sur ses pieds. Je dis, tiens, comment tu t'es levé? Il dit, en fait, depuis que tu as prié pour moi, j'avais envie de me lever, mais je ne me suis pas levée. Et puis finalement, ça me travaillait tellement que je me suis levée et maintenant je suis guérie. C'est le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Parce que son nom représente son œuvre. Et souvent, nous manquons de hardiesse. Amen. Le nom de Jésus ne m'appartient pas à moi seul. N'importe quelle personne qui se trouve ici, n'importe quelle, tu as le droit de prier pour quelqu'un, n'importe qui, dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il n'est pas dit, les pasteurs imposeront les mains dans le nom de Jésus. Il n'est pas dit les évangélistes. Il a dit ceux qui croiront. Alors souvent, parce que le diable aime bien nous feinter, commence à prier au nom de Jésus, tu imposes les mains à quelqu'un, et non seulement il ne va pas mieux, mais parfois même il meurt. Que cela ne t'arrête jamais. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et quand les choses comme ça arrivent, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais que ça ne vient pas de toi. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Parce que jamais je n'arrêterai de prier dans le nom de Jésus. Amen. Parfois aussi, les gens pour qui vous priez, ils n'ont pas beaucoup de foi. Alors, on doit les secouer un peu. Rappelez-vous de ces histoires Smith Wigglesworth. Un jour, on lui amène quelqu'un qui est mourant, qui a un cancer de l'estomac, qui est mourant, tellement mourant que le temps qu'on l'amène pour qu'il prie pour lui, la personne venait juste de mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son poing. Il lui donne c'était un homme vraiment de très grande stature. Il lui donne un énorme coup de poing dans l'estomac. Et la personne est projetée au moins un mètre comme ça. Et les gens qui sont autour de lui, ils viennent autour de lui. Ils disent, il est mort. Alors tout le monde est scandalisé. Écoutez bien, frères et sœurs, ne soyez pas scandalisés des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Après, il vient auprès de cet homme, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, il le prend, il le relève, et il était entièrement guéri. Eh oui. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de hardiesse. C'était un homme hardi dans la foi. Un jour, on va lui dire que telle personne est morte. Et les gens, à cette époque, parfois, ils mouraient chez eux. Alors, il s'enferme tout seul avec le cadavre. Il l'attrape. Il le plaque contre le mur. Imaginez. Vous savez, tout le monde ne peut pas faire ça. Sauf s'il le veut. Il attrape le cadavre par les habits comme ça. Il le plaque contre le mur. Et lui dit, au nom de Jésus, reviens dans ton corps. Il lâche le cadavre. Le cadavre tombe par terre. Il le ramasse encore une fois. Il le replaque contre le mur. Et il dit, je t'ai dit au nom de Jésus, reviens dans ton corps maintenant. 5 ou 6 fois. Sauf que la 6e fois, je pense, il est revenu dans son corps. Croyez dans le... Acclamez le Seigneur, c'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a fait ces choses. Et je dis, en tout cas moi sur ma vie, vous voulez que je dise sur la vôtre? Ok. Je sens l'onction ici, là. Je dis que nous ferons les mêmes choses. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas acclamé l'homme, mais ils ont acclamé celui qui ressuscite les morts. C'est pour ça que tout à l'heure, le Seigneur nous a donné cette parole. Il faut que ce qui est de la chair meure dans la vie de chaque personne. Acte chapitre 3, maintenant on va y aller. Acte chapitre 3, versets 1 à 8. Les premiers qui ont expérimenté cette parole dans le nom de Jésus, bien sûr, c'est Pierre et Jean.
Ni Petero na Yohana.
Moi, ce que j'aime, en tout cas, dans la vie de Pierre, tout ce qu'on en dit, c'est qu'il était toujours partant. Il était le premier. Et parfois, il a même été le seul. Celui qui enjambe la barque et qui marche sur l'eau, c'est Pierre. Celui qui est tellement rempli du Saint-Esprit, il se lève pour prêcher, c'est Pierre. Et 3000 personnes se convertissent et c'est ainsi que l'église de Jérusalem est constituée. Celui qui se trouve à la porte du temple avec Jean. Et il y a une chose que j'aimerais vous montrer par rapport à ce miracle aussi. Lisons Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, c'est-à-dire un homme infirme, qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer et qui va permettre à nouveau, parce que c'est quelque part un petit peu loin, mais ça doit recommencer maintenant. Ce genre de miracle. Amen. Qui veut voir ce genre de miracle? Amen, amen, amen. Qui veut être utilisé pour ce genre de miracle? Faites comme ça. Regardez là-haut. Le Seigneur est en train de vous regarder. Alléluia. Une chose qui est vraiment, 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 vraiment le grand problème. Regardez. On dit que c'est toi. Va t'asseoir sur le bout de l'estrade. Donc, moi, je suis Pierre et Jean en même temps. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en plus. Pierre et Jean, qui sont en train de monter au temple. Ils sont en train de parler. Et Pierre dit à Jean,
oh,
Jean, tu sais, j'ai vraiment un problème. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Et Jean qui se dit, oh, c'est pas possible. Mes enfants me créent tellement d'histoires. Et Pierre qui continue, oh, c'est pas possible, si seulement Jésus était là encore. Et Jean qui se dit, oui, Pierre, tu as vraiment raison. On est petit, on est faible, on a des problèmes. Et puis alors, tu sais en plus, tel, tu sais ce qu'il dit sur moi? Mais d'abord, pour qui est-ce qu'il se prend? Est-ce qu'il est meilleur de moi que moi pour se permettre de parler de moi? Et ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela. Et si Pierre et Jean avaient été là, ils seraient passés devant le boiteux sans le voir. Sans le voir. Ou en le voyant. Et en se disant, Jean, t'as pas 100 francs? Tiens, sois béni au nom de Jésus. Ah, on peut bénir au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, ils étaient focalisés. Amen. Ils étaient focalisés, non pas sur eux-mêmes. Non, reste là, mon boiteux. Non pas sur eux-mêmes. Non, j'ai vraiment envie de le faire en premier lieu. Non pas sur eux-mêmes. Non pas sur leurs besoins. Non pas sur leurs problèmes. Non pas sur ce qui les blesse. Ce qui leur fait mal. Ou les choses qu'ils veulent. Oh, j'aimerais bien avoir une voiture. Oh, j'aimerais bien avoir ci. Ils étaient focalisés sur le Seigneur. Et quand ils ont vu le miracle, quand ils ont vu le boiteux, ils ne se sont pas dit, ah bah finalement, il y a des gens qui sont plus malheureux que nous. Souvent, c'est ce qu'on se dit, n'est-ce pas?
Hein?
Quand tu vois quelqu'un qui est vraiment pas bien,
tu te dis,
oh, gloire à Dieu, moi au moins, je vais mieux que lui. La plupart des gens, ils ne voient pas le miracle. Ou alors, s'ils le voient, et c'est tellement loin qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Mais Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. C'était pas loin. C'était près. C'était en eux. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu quoi? Le miracle. Et ils lui ont dit, au nom de Jésus, lève-toi, t'as pas sauté assez bien. Recommence. Au nom de Jésus, lève-toi, loue Dieu. Vous savez, parfois, parce que je ne suis pas en train de jouer là. Je suis en train de vous montrer quelque chose encore. Le boiteux, il s'est levé d'un bond. Il y a des personnes, quand on prie pour elles, on doit les arracher de leur situation. Parce que les tirer, ça ne suffit pas. Il faut dire, au nom de, comme Smith Wigglesworth, au nom de Jésus, et force tu
m'occupes.
Heureusement que t'es pas. Amen. Et ils ont agi dans le nom de Jésus. Ils n'avaient ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qui peut dire Pierre est plus que moi? Jean est plus que moi. Paul est plus que moi. Personne n'est plus que toi, personne n'est plus que moi. Parce que nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce. Personne n'est plus qu'un autre. Et nous avons tous le même nom. Le nom de Jésus. Soit tu l'utilises, soit tu ne l'utilises pas. Amen. Amen.
Amen.
On va continuer la semaine prochaine parce que, prochainement, parce que j'aimerais encore parler du nom de Jésus et le nom de Jésus dans la prière. Amen. Et on va voir comment le Seigneur va nous diriger, comment le Saint-Esprit va nous diriger. Parce qu'il est important que l'Église connaisse et comprenne la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Vous savez, on prie tout le temps, on attend de voir ce réveil venir. Mais je vous assure que nous aussi, nous avons quelque chose à faire, quelque chose à comprendre, quelque chose à utiliser. Et ne crains pas, parce que tu peux ne pas vraiment bien l'utiliser la première fois, mais la deuxième fois, ça sera mieux, et la troisième fois, ça sera puissant. Ne vous laissez jamais décourager par des échecs. D'ailleurs, vous n'êtes pas comme cela. Parce que quand vous étiez petit, un jour vous avez appris à marcher, avant de pouvoir tenir correctement sur ses deux pieds et marcher, ça vous a pris du temps. Vous êtes tombé plusieurs fois, mais à chaque fois vous vous êtes relevé. Amen. Il y a de la puissance, il y a de l'autorité dans le nom de Jésus qui nous a été donné. Amen.